RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue d'abord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notamment notre compte Twitter, ETI Radio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, et puis Ludovic Biribos, associé du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Rodolphe Delorque, le président du Zooparc de Beauval. Bonjour Rodolphe.
Bonjour.
Alors racontez-nous, côté études, c'était pas votre truc, hein. Vous êtes
non.
Rapidement passé dans le côté pratique de la chose, non ?
Exactement. Moi, j'étais plutôt en échec scolaire. Je voulais faire quelque chose. Et comme maman avait créé un petit parc d'oiseaux, eh bien, j'ai décidé d'arrêter à 16 ans mes études pour aider à créer un parc zoologique, tout simplement.
Alors, Beauval, c'est une success story exceptionnelle. C'est une magnifique ETI. Alors, racontez-nous le début. Comment ça a débuté, tout ça ? Il n'y avait pas de panda à l'époque.
Il n'y avait pas de panda. Les pandas sont arrivés en 2012. Il n'y avait pas de panda, mais il y avait des oiseaux. Maman a fait le conservatoire d'art dramatique de Paris. Elle vient du showbiz parisien où elle présentait des spectacles de musicaux. Elle présentait Jacques Brel, Georges Brassens et bien d'autres. Et un jour, elle s'est passionnée pour les oiseaux. Elle a eu jusqu'à 300 oiseaux dans son appartement à Paris.
300 oiseaux dans un appartement à Paris.
Exactement.
De quelle taille, quand même, l'appartement ? Juste pour...
L'appartement, c'était un duplex, il était grand, mais avec les 300 oiseaux, il ne restait pas grand-chose. Il a fallu refaire.
Et vous aviez une chambre là-bas, vous ?
J'avais une chambre, mais rapidement, ma mère m'a mis dans la chambre de ma sœur pour mettre des oiseaux dans ma chambre. Ouais. Voilà, il y avait des chouettes dans la salle de bain, des perroquets, etc. Donc, mais c'était très sympa. Donc, les oiseaux avaient besoin de place. Donc, maman a trouvé une petite propriété à Saint-Aignan-sur-Cher, Loir-et-Cher, entre Chambord et Chenon. Et elle voulait installer ses oiseaux à la campagne. Et en 1980, elle a ouvert un tout petit parc d'oiseaux avec seulement 2 ou 3 salariés, qu'elle a dirigé toute seule jusqu'en 88 avec 3 salariés et seulement 40 000 visiteurs jusqu'en 88.
Et Beauval aujourd'hui, donc ça représente quoi ? Il y a 1200 collaborateurs, un équivalent temps plein, enfin avant Covid.
Voilà, moi j'ai arrêté mes études en 88 pour aider à créer un parc zoologique. Donc nous sommes un peu habitués aux croissances à 2 chiffres chaque année. Et aujourd'hui, Beauval, ce sera cette année plus de 2 millions de visiteurs. Donc à une des premières destinations de France après Disney. Et c'est 1200 salariés, ce sera 1300 cet été, ce sera 1500 l'année prochaine.
70 millions de d'affaires, c'est ça ?
C'était 70 millions avant la crise Covid. Cette année, ça sera plus de 100 millions. Donc, une croissance, on va passer dans l'année de 70 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et Rodolphe, vous investissez également massivement, notamment dans l'hôtellerie, quoi.
Voilà, on a ici dans le parc, toujours le même triptyque, le bien-être de nos animaux, de nos pensionnaires, ils sont nombreux, c'est 35 millions, nous sommes des centres de conservation, d'éducation, de recherche. Donc le même triptyque, le bien-être de nos animaux, de nos collaborateurs, pour faire passer un moment de rêve et d'émerveillement à notre public. En ces périodes un peu troublées, les Français ont besoin de se changer les idées. Donc après chaque réouverture après Covid, on est reparti de plus belle. Et cette année 2022 sera certainement exceptionnelle. Donc oui, on investit dans le parc pour les animaux, mais aussi en hôtellerie. Nous sommes en train de construire...
Combien de chambres au total, vous avez ?
Aujourd'hui, on a plus de 400 chambres. On en aura 550 l'année prochaine.
Colossal.
Donc hôtellerie, c'est vraiment une destination.
Combien de temps il reste en général ?
Nos visiteurs restent 2 jours.
D'accord. Une nuit, 2 jours ?
Généralement une nuit, 2 jours. D'accord. Parfois un peu plus, et ils en profitent pour faire un détour par les châteaux de la Loire, Chambord, Chenonceau, Cheverny.
Bon, c'est moins bien que Beauval, mais c'est sympa comme truc.
Voilà, mais eux sont monuments historiques, pas nous encore, mais nous faisons à la fois la fréquentation de Chambord et de Chenonceau réunis, donc c'est pas mal pour un établissement qui n'est pas monument.
Et alors vous, Rodolphe, vous êtes l'homme qui murmurait aux oreilles des femmes des présidents, parce que grâce aux pandas, vous les connaissez toutes. Hein.
Oui, des femmes des présidents.
Les présidents et les épouses des présidents, c'est formidable. Quand même.
Les présidents viennent tous, les politiques viennent tous, parce que les pandas qui sont arrivés en 2012, suite à un accord au plus haut niveau entre président Nicolas Sarkozy et président Hu Jintao. Les présidents sont obligés de venir voir les pandas. Les pandas, c'est le symbole diplomatique, symbole d'État. J'ai accompagné le président Emmanuel Macron lors de son dernier voyage d'État en Chine en 2019. Je serai certainement du prochain déplacement. Dès qu'il y a une visite d'État franco-chinoise, nous sommes là, parce que les pandas, c'est un lien très fort entre la France et la Chine.
Alors, on n'a pas envie de casser un mythe, mais est-ce que c'est intelligent, un panda ?
Oh, un panda, c'est un ours qui mange du bambou. L'activité du panda, c'est deux choses. dormir 12 heures par jour, manger du bambou 12 heures par jour.
Oh, c'est un bon job, ça, voilà. Ludovic.
Et le reste du temps, madame étant chaleur, une fois par an, une journée. Et comme m'a dit François Hollande, ça doit être intense, ce jour-là.
Fanny, vous connaissez Beauval, vous avez déjà fréquenté le site.
J'étais dès les premiers jours à Beauval. Je suis une amie de la Chine aussi. Et c'est vrai que, bah, juste pour finir sur ce sujet, et puis avant de passer à la suite, mais c'est vrai que c'est quand même un partenariat qui est plus que diplomatique. Hein. C'est l'amitié franco-chinoise qui s'exprime ici. J'ai envie de dire comment ça s'est passé, comment le choix de Beauval, et puis aussi comment vont les pandas, et est-ce que l'objectif qui est de faire faire des petits aux pandas se déroule bien, est-ce qu'il y a des naissances.
Ce qui est dingue, c'est que vous avez combien d'animaux sur le parc?
35 000.
On parle que d'un seul.
Voilà, non, pas des pandas, mais c'est vrai que nos visiteurs viennent beaucoup pour les pandas, mais ensuite c'est pas les pandas qu'ils préfèrent, c'est souvent les spectacles d'oiseaux, notamment 600 c'est oiseaux en plein vol, c'est les hippopotames en aquavision.
En plein vol aussi.
Qu'on a ouvert en 2020. Les pandas vont très bien, ça a été 6 ans de négociation. C'est maman qui nous a quittés en décembre dernier, qui avait un rêve, c'est de présenter au public français les pandas, et j'en connais peu, enfin je suis un peu pareil. Maman était capable d'appeler 10 fois par jour Élysée s'il fallait, 20 fois par jour nos parlementaires. Je disais, mais attends, on voit ton portable qui s'affiche, tu peux pas appeler 10 fois en une heure.
Passe-moi le tien.
Non, mais au bout d'un moment, et ça a fonctionné. Ça a été vraiment un accord. Le président Nicolas Sarkozy s'en est vraiment occupé. Nicolas Sarkozy nous suit toujours, il vient de temps en temps. Et réactions bilatérales, il y a des hauts débats. Elles se sont réchauffées à la fin du mandat de Sarkozy. Ouais. Et donc, ils sont arrivés en janvier 2012. Et ils vont très bien. Ils ont eu 3 bébés. Le premier en 2017, qui a pour marraine Brigitte Macron. Et 2 des jumeaux sont nés en 2021, le 2 août 2021. On a choisi d'autres parrains. On a évité le monde politique. Après Brigitte Macron, c'était difficile en 2021 de trouver un politique de ce niveau. Donc on a choisi le sport. Donc j'ai demandé à Kylian Mbappé, et c'est Kylian qui a accepté, qui est venu pour la cérémonie du nom. Mais les Chinois nous ont envoyé eux pendant, c'est-à-dire une championne olympique des derniers JO de Tokyo, pour marrainer le deuxième.
Vous avez pensé à Mélenchon comme parrain ou pas du tout? Non, pas trop.
Quoi. Oh, écoute, je pense que Kylian, c'était pas mal.
Fanny,
c'était pas mal.
Fanny.
Non, mais c'est important parce qu'on connaît, en fait, pour les Chinois, c'est vraiment la prunelle de leurs yeux, c'est un trésor national.
Ah là, c'est trésor.
Et c'est donc une exigence maximale en termes de bien-être animal.
Exactement.
Ce qui m'amène à une question sur laquelle vous êtes très, très vocale, puisque vous présidez aussi l'association des zoos et des aquariums. Oui. Finalement, qu'est-ce qu'un zoo aujourd'hui? Parce que vos détracteurs sont ceux qui disent, finalement, c'est un endroit où on met en cage les animaux, et puis on fait de l'exhibitionnisme. Et vous, en fait, vous dites, non, c'est un lieu de préservation de la diversité, c'est un lieu de bien-être animal, etc. Est-ce qu'en fait, il y a eu une mutation? Est-ce qu'encore le mot zoo est vraiment adapté à ce que vous faites aujourd'hui? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision, finalement, de ces enjeux sociétaux?
Oui, moi, aujourd'hui, je suis fier du mot zoo moderne. Et ce qu'il faut, c'est demander à nos détracteurs ce qu'eux font pour la biodiversité, ce qu'eux font pour les animaux. Souvent, ils n'aiment pas les animaux. Souvent, ils ne s'occupent pas d'animaux et ils ne savent pas ce que c'est. Moi, si je fais ce métier, c'est avant tout parce que j'aime les animaux au plus profond de moi. C'est ma passion. Le bien-être animal, ce n'est même plus un sujet, c'est notre priorité. Avant tout, on est des lieux, nos animaux sont tous nés en parc zoologique depuis des générations. Nous les échangeons à travers tous les plus grands zoos européens ou du monde entier, à travers des programmes d'élevage international. Pour la conservation des espèces. Nous sommes des conservatoires génétiques. Nous sommes des coffres-forts de la biodiversité, si on peut dire. Nous réintroduisons des animaux dans la nature lorsqu'il y a un besoin de conservation. Nous sommes des lieux d'éducation du public, c'est-à-dire que nous sommes avec plus de 2 millions de visiteurs à Beauval cette année, 27 millions dans les zoos français chaque année. Nous sommes le premier voyage pour les enfants souvent déconnectés de la nature. La première reconnexion au monde sauvage, quel enfant a l'occasion de voir des tigres dans des environnements reconstitués, de voir des pandas géants s'ébattre débattre dans un environnement, eh bien c'est on peut protéger ce qu'on connaît, ce qu'on a appris, et c'est chez nous qu'on peut apprendre. Mieux pour moi qu'à la télé, à travers l'émotion. Voilà. Et on est aussi des lieux qui finançons la conservation. Et Parcs Zoologiques à travers le monde sont les troisièmes financeurs de la conservation.
Et en France, combien de personnes travaillent dans l'univers des parcs?
Donc aujourd'hui, juste pour finir sur ce point, Beauval, on finance, notre association Beauval Nature, ouais, financée beaucoup par du mécénat, on finance pour 2 300 000 euros cette année de programme de conservation in situ. On gère une réserve au Congo, j'ai 15 salariés là-bas, etc. Et Zoo dans le monde finance 350 millions de dollars chaque année pour la conservation sur le terrain. Et les parcs zoologiques, c'est donc à Beauval, c'est 1200, 1500 personnes, c'est 2500 emplois induits sur le territoire, parce qu'on est aussi, on est sur des territoires ruraux, dans le cadre de l'aménagement du territoire, on génère à travers les chambres d'hôtes, les JT, restaurants et hôtels, beaucoup d'emplois induits. Et parcs zoologiques français, alors c'est sûr qu'il y a un décalage, Beauval, on représente 40-50% du chiffre d'affaires du secteur, c'est à peu près 15 000 emplois et 2 emplois et demi en plus sur
Il y a un avenir, Rodolphe, quelqu'un qui veut, veut créer ex nihilo plutôt un parc, il y a encore des choses à faire en France sur le thème du zoo, c'est fini là
Je ne défends pas tous les parcs zoologiques, il y a des mauvais zoos qui doivent évoluer ou fermer.
Quelques-uns
qui doivent fermer, non, je ne vais pas citer des noms tout de suite, mais je combats les mauvais zoos. Donc il y a des zoos qui ferment, heureusement, parce qu'il y a des mauvais. Il y a des zoos qui se créent, il y a des zoos de qualité qui se créent. Il n'y a plus énormément de place pour en créer, parce que c'est beaucoup de contraintes. Mais surtout, on ne crée pas un parc zoologique pour le business.
C'est d'abord une passion.
C'est avant tout une passion. Vous avez compris, je suis passionné. J'y consacre ma vie. J'ai consacré ma vie aux animaux, contrairement à nos détracteurs qui consacrent leur vie à des combats politiques et idéologiques. Moi, je consacre ma vie aux animaux et à leur bien-être.
Fanny ? Et conserver, préserver, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup de travail aussi au quotidien, notamment en matière vétérinaire. Réinsérer en milieu naturel, est-ce que c'est possible ? Est-ce que on sait que c'est très exigeant, très long. Est-ce que vous avez des réussites en la matière ? Est-ce que vous avez des espoirs en la matière ?
Alors, la réintroduction d'un animal né en parc, c'est la dernière solution pour la conservation. Mais quand il reste que ça ici, il faut la tenter. Beaucoup d'espèces ont été sauvées grâce à l'élevage en parc zoologique, grâce à l'élevage en captivité, si on peut dire, comme les diables de Tasmanie, comme le cheval de Przewalski, comme des oryx en Arabie, comme le pigeon rosé à Imoris, comme certains singes au Brésil. Je pourrais vous en citer beaucoup. Moi, j'ai réintroduit en 2019, dans le cadre d'un programme de réintroduction globale, des gorilles au Gabon. Deux femelles gorilles vivaient chez nous.
Ça a fonctionné.
Ça a fonctionné. Après des mois de travail, des mois d'organisation, un coût extrêmement important, on a réintroduit deux femelles gorilles. Et l'important, c'est que ça permet de conserver 200 000 hectares, parce que ces gorilles sont suivis. C'est une quarantaine de gorilles qui ont été réintroduits. C'est toute une forêt qui est protégée grâce à l'introduction de ces gorilles. Génial. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sur deux femelles gorilles, il y en a une, 6 mois après, qui s'est blessée dans la forêt.
Ça arrive.
Elle a une septicémie, elle est morte. Donc 50% d'échec. En revanche, et la seconde va très bien, elle a été rejointe par un mâle réintroduit qui venait d'Angleterre et a mis au monde il y a 1 an un bébé.
Donc ça,
c'est
génial.
Mondial.
C'est deux gorilles qui ont été réintroduits, qui ont reproduit à l'état sauvage. Donc moi, je ne vois pas l'échec qu'il y a eu, mais je vois surtout la grande réussite.
Bien sûr.
Donc voilà, il y a des programmes qui fonctionnent, mais et ça vaut le coup d'être tenté.
Ludovic ?
Rodolphe, merci. Moi, je n'ai pas encore visité le zoo de Beauval, mais je me suis promis de le faire très prochainement. Un zoo, c'est aussi une exploitation. Donc, est-ce que vous avez la possibilité de nous partager quelques chiffres, quelques grandes masses, notamment en matière d'achat ou d'approvisionnement, en termes de denrées alimentaires?
Votre budget bambou.
Exactement.
Budget bambou. Eh bien, le budget bambou, c'est à peu près 100 000 euros par an, principalement.
100 000 euros de bambou?
Personnel. Oui, c'est, voilà, ça, c'est pour les pandas. On les achète dans des plantations autour, on en plante, mais on va les couper, etc. Parce qu'un panda mange la moitié de son poids par jour.
Il pèse combien?
Il pèse 110 kilos, il mange 50 kilos de bambou par jour.
C'est presque plus que vous, je devine.
Il mange autant qu'un hippopotame qui pèse 3 tonnes et il va faire 20-25 kilos de crotte par jour. Il va déféquer 110 fois par jour parce que.
Donc,
et koala, c'est 100 000 euros par jour. 100 000 euros par an. Et koala d'eucalyptus, 100 000 euros d'eucalyptus par an, parce que c'est l'eucalyptus.
Marijuana, vous avez un budget marijuana ou pas? Il y a des espèces,
non. Ça viendra peut-être pour certains spécimens, mais j'y crois pas vraiment. Non, c'est où est pendant le confinement Le frais de fonctionnement de Bova était de 100 000 euros par jour. Quand on était fermé, quand on avait zéro rentrée, c'était 100 000 euros de frais de fonctionnement. On a été fermé 9 mois et demi. Donc ça, c'est un chiffre parlant quand même. Mmh. On était content de rouvrir, content d'avoir eu les aides de l'État.
Et les collaborateurs sont restés? Ils n'ont pas cherché d'autres destinations, d'autres jobs?
On a gardé 250 salariés pendant le confinement pour s'occuper des animaux, de l'entretien du parc, de la maintenance. On en a, certains étaient au chômage partiel, certains n'ont pas voulu revenir. Ils se trouvaient très bien au chômage partiel, seulement au bout d'un moment, les aides s'arrêtent, hein, faut le savoir. Voilà, certains s'en aperçoivent aujourd'hui. Certains ont changé de métier, notamment dans l'hôtellerie à restauration, c'est compliqué. L'hôtellerie à restauration aujourd'hui doit totalement se réinventer. Nous, on a à peu près 600 personnes en hôtellerie restauration.
C'est beaucoup. Hein.
C'est compliqué, mais on y arrive quand on arrive à être attractif, parce que faut, dans une commune de 3000 habitants, 1200, 1500 salariés, voilà, faut y faire venir, faut y loger, voilà. Mais surtout, on sous-traite très peu, donc on a à peu près 80 métiers différents. Ça va du soigneur animalier, des vétérinaires, on a 7 vétérinaires, on a de beaucoup d'assistants vétérinaires, mais on a aussi des femmes de chambre, du personnel en hôtellerie, restauration, des électriciens, des plombiers, des esthéticiennes, parce qu'on a un spa dans nos hôtels. Enfin, on a des métiers extrêmement variés et que l'on gère intégralement.
Vous êtes heureux là-bas, Ludovic?
J'ai l'impression que ça a dit, hâte de venir vous rencontrer. On a parlé d'émerveillement du client tout à l'heure. Je voulais savoir justement quelles sont les innovations en matière de digitalisation, de parcours client que vous souhaitez mettre en place. Vous allez pouvoir nous présenter peut-être en avance de phase, peut-être que ce sera l'occasion de le faire venir.
Nous, c'est surtout offrir du rêve et faire rêver nos publics du moment où ils arrivent dans nos hôtels, par exemple, jusqu'à leur départ, qu'ils soient bien accueillis dès leur arrivée sur les parkings. On a fait un week-end à plus de 80 000 visiteurs au week-end de l'Ascension, donc les visiteurs doivent être bien accueillis malgré la fréquentation.
Ça rentre sur le parking?
Ça rentre sur les parkings, on est très organisé, on a un gros service d'ordre de sécurité et de gestion de flux. Voilà, et on ouvre à Ascension, par exemple, on a ouvert avant 8 heures le matin, on ouvre très tôt, on ferme très tard le soir.
C'est parfait pour les 35 heures.
Voilà, et on offre beaucoup d'animation tout au long de la visite, c'est-à-dire que les visiteurs viennent chez nous au départ passer un bon moment en famille, se ressourcer en famille. Les Français ont besoin de se retrouver avec ces périodes après ces périodes de confinement. Donc à partir de ce moment où ils viennent passer un bon moment en famille, tout au long de leur visite, on essaie subtilement, à travers les animations, de leur passer un message positif sur la conservation et la protection de la biodiversité, comment on peut protéger l'environnement ici, comment on peut avoir un impact d'ici à l'autre bout de la planète. Et ça, c'est vraiment une mission.
Il y a un côté pédagogique.
Il y a un côté pédagogique du début à la fin.
Ludovic?
Et une dernière question sur la RSE. Je voulais savoir justement quelles sont les grandes lignes directrices que vous avez définies en matière de politique RSE.
Nous, on a un gros service environnement à Beauvais. Déjà, le RSE a toujours été, même si on n'appelait pas comme ça à l'époque, pour moi très important. Jamais on a utilisé de pesticides, jamais j'ai utilisé de désherbants, etc. On a toujours désherbé à la main, on a toujours utilisé
de l'engrais naturel, de panda.
Des engrais naturels. On a toujours planté des centaines, des milliers de végétaux. Lorsqu'on coupe un arbre, pour construire quelque chose, on en replante 10. Il y a 5 ans, j'ai ouvert ma propre usine à biogaz, c'est-à-dire que j'ai créé, financé, on exploite et elle fonctionne à 98%, une usine à méthanisation adossée au parc avec nos déchets, nos fumiers, nos déchets verts, des déchets qu'on récupère à l'extérieur. On produit du gaz méthane, on chauffe une partie de nos serres, on produit de l'électricité et on redonne aux agriculteurs un digestat solide ou liquide qui peuvent épandre dans les cultures et après la méthanisation, azote est minéralisable. Donc on fait beaucoup d'actions à récupération d'eau pour l'arrosage et là on a une déchetterie parce que Beauvais, c'est une vie. Quand on reçoit 10, 20, 15, 30 000 visiteurs par jour, c'est une vraie vie. On doit gérer nos déchets aussi. Donc on a une déchetterie qui est aujourd'hui sous-dimensionnée. On démarre les travaux d'un très grand centre de tri où l'objectif c'est qu'en 2025, 100% de nos déchets soient entièrement recyclés à Beauvais.
Pour terminer, Rodolphe, quand on va venir chez vous, là, tous les auditeurs de ETI Radio, vous avez un bon vigneron à nous conseiller autour de chez vous. Il y a une personne en particulier que vous souhaitez féliciter?
Des vignerons, il y en a plein, mais il y a à mon avis, de Thierry Delaunay et Vin Delaunay à Pouillé.
Il n'est pas très loin de chez vous, là, non?
Il n'est pas très loin de chez nous. Je crois qu'il fait entre 1 et 2 millions de bouteilles par an. Et principalement, les blancs, les chenonceaux blancs sont vraiment exceptionnels. Il travaille beaucoup à l'export, il fait très bon vin.
Allez, on les embrasse. Merci à vous, Rodolphe. Merci également à vous, Fanny et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et sur notre actualité sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.